Henri Poincaré, Science et méthode. Chapitre 3, la mécanique nouvelle et l'astronomie. La gravitation. La masse peut être définie de deux manières. Premièrement, par le quotient de la force, par l'accélération, c'est la véritable définition de la masse qui mesure l'inertie du corps. Deuxièmement, par l'attraction qu'exerce le corps sur un objet extérieur en vertu de la loi de Newton. Nous devons donc distinguer la masse coefficient d'inertie et la masse coefficient d'attraction. D'après la loi de Newton, il y a proportionnalité rigoureuse entre ces deux coefficients. Mais cela n'est démontré que pour les vitesses auxquelles les principes généraux de la dynamique sont applicables. Maintenant, nous avons vu que la masse coefficient d'inertie croît avec la vitesse. Devons-nous conclure que la masse coefficient d'attraction croît également avec la vitesse et reste proportionnelle au coefficient d'inertie ou, au contraire, que ce coefficient d'attraction demeure constant? C'est là une question que nous n'avons aucun moyen de décider. D'autre part, si le coefficient d'attraction dépend de la vitesse, comme les vitesses des deux corps qui s'attirent mutuellement ne sont généralement pas les mêmes, comment ce coefficient dépendra-t-il de ces deux vitesses? Nous ne pouvons faire à ce sujet que des hypothèses, mais nous sommes naturellement amenés à rechercher quelles seraient celles de ces hypothèses qui seraient compatibles avec le principe de relativité. Il y en a un grand nombre. La seule dont je parlerai ici est celle de Lorentz, que je vais exposer brièvement. Considérons d'abord des électrons en repos. Deux électrons de même signe se repoussent et deux électrons de signe contraire s'attirent. Dans la théorie ordinaire, leurs actions mutuelles sont proportionnelles à leurs charges électriques. Si donc nous avons quatre électrons, deux positifs A et A' et deux négatifs B' et que les charges de ces quatre électrons soient les mêmes en valeur absolue, la répulsion de A sur A' sera à la même distance égale à la répulsion de B sur B' et égale encore à l'attraction de A sur B' ou de A' sur B. Si donc A et B sont très près l'un de l'autre, de même que A' et B', et que nous examinions l'action du système A plus B sur le système A' plus B', nous aurions deux répulsions et deux attractions qui se compenseront exactement et l'action résultante sera nulle. Or, les molécules matérielles doivent précisément être regardées comme des espèces de systèmes solaires où circulent les électrons, les uns positifs, les autres négatifs, et de telle façon que la somme algébrique de toutes les charges soit nulle. Une molécule matérielle est donc de tout point semblable au système A plus B dont nous venons de parler, de sorte que l'action électrique totale de deux molécules l'une sur l'autre devrait être nulle. Mais l'expérience nous montre que ces molécules s'attirent par suite de la gravitation newtonienne. Et alors on peut faire deux hypothèses. On peut supposer que la gravitation n'a aucun rapport avec les actions électrostatiques, qu'elle est due à une cause entièrement différente et qu'elle vient simplement s'y superposer. Ou bien, on peut admettre qu'il n'y a pas proportionnalité des actions aux charges et que l'action exercée par une charge plus 1 sur une charge moins 1 est plus grande que la répulsion mutuelle de deux charges plus 1 ou que celle de deux charges moins 1. En d'autres termes, le champ électrique produit par des électrons positifs et celui que produisent les électrons négatifs se superposeraient en restant distincts. Les électrons positifs seraient plus sensibles aux champs produits par les électrons négatifs qu'aux champs produits par les électrons positifs. Ce serait le contraire pour les électrons négatifs. Il est clair que cette hypothèse complique un peu l'électrostatique, mais qu'elle y fait entrer la gravitation. C'était en somme l'hypothèse de Franklin. Qu'arrive-t-il maintenant si les électrons sont en mouvement? Les électrons positifs vont engendrer une perturbation dans l'éther et y feront naître un champ électrique et un champ magnétique. Il en sera de même pour les électrons négatifs. Les électrons, tant positifs que négatifs, subiront ensuite une impulsion mécanique par l'action de ces différents champs. Dans la théorie ordinaire, le champ électromagnétique dû au mouvement des électrons positifs exerce sur deux électrons de signes contraires et de même charge absolue des actions égales et de signes contraires. On peut alors, sans inconvénient, ne pas distinguer le champ dû au mouvement des électrons positifs et le champ dû au mouvement des électrons négatifs et ne considérer que la somme algébrique de ces deux champs, c'est-à-dire le champ résultant. Dans la nouvelle théorie, au contraire, l'action sur les électrons positifs du champ magnétique, due aux électrons positifs, se fait d'après les lois ordinaires. Il en est de même de l'action sur les électrons négatifs du champ, due aux électrons négatifs. Considérons maintenant l'action du champ due aux électrons positifs sur les électrons négatifs, ou inversement. Elle suivra encore les mêmes lois, mais avec un coefficient différent. Chaque électron est plus sensible au champ créé par les électrons de nom contraire qu'au champ créé par les électrons de même nom. Telle est l'hypothèse de Lorentz, qui se réduit à l'hypothèse de Franklin aux faibles vitesses. Elle rendra donc compte, pour ces faibles vitesses, de la loi de Newton. De plus, comme la gravitation se ramène à des forces d'origine électrodynamique, la théorie générale de Lorentz s'y appliquera et par conséquent, le principe de relativité ne sera pas violé. On voit que la loi de Newton n'est plus applicable aux grandes vitesses et qu'elle doit être modifiée pour les corps en mouvement, précisément de la même manière que les lois de l'électrostatique pour l'électricité en mouvement. On sait que les perturbations électromagnétiques se propagent avec la vitesse de la lumière. On sera donc tenté de rejeter la théorie précédente en rappelant que la gravitation se propage, d'après les calculs de Laplace, au moins 10 millions de fois plus vite que la lumière et que, par conséquent, elle ne peut être d'origine électrodynamique. Le résultat de Laplace est bien connu. Mais on en ignore généralement la signification. Laplace supposait que si la propagation de la gravitation n'est pas instantanée, sa vitesse de propagation se combine avec celle du corps attiré, comme cela se passe pour la lumière dans le phénomène de l'aberration astronomique, de telle façon que la force effective n'est pas dirigée suivant la droite qui joint les deux corps, mais fait avec cette droite un petit angle. C'est là une hypothèse toute particulière, assez mal justifiée et en tout cas entièrement différente de celle de Lorentz. Le résultat de Laplace ne prouve rien contre la théorie de Lorentz. Comparaison avec les observations astronomiques. Les théories précédentes sont-elles conciliables avec les observations astronomiques? Tout d'abord, si on les adopte, l'énergie des mouvements planétaires sera constamment dissipée par l'effet de l'onde d'accélération. Il en résulterait que les moyens mouvements des astres iraient constamment en s'accélérant, comme si ces astres se mouvaient dans un milieu résistant. Mais cet effet est excessivement faible, beaucoup trop pour être décelé par les observations les plus précises. L'accélération des corps célestes est relativement faible, de sorte que les effets de l'onde d'accélération sont négligeables et que le mouvement peut être regardé comme quasi stationnaire. Il est vrai que les effets de l'onde d'accélération vont constamment en s'accumulant, mais cette accumulation elle-même est si lente qu'il faudrait bien des milliers d'années d'observation pour qu'elle devînt sensible. Faisons donc le calcul en considérant le mouvement comme quasi-stationnaire, et cela dans les trois hypothèses suivantes. A. Admettons l'hypothèse d'Abraham. Électron indéformable, et conservons la loi de Newton sous sa forme habituelle. B. Admettons l'hypothèse de Lorentz sur la déformation des électrons, et conservons la loi de Newton habituelle. C. Admettons l'hypothèse de Lorentz sur les électrons, et modifions la loi de Newton, comme nous l'avons fait au paragraphe précédent, de façon à la rendre compatible avec le principe de relativité. C'est dans le mouvement de Mercure que l'effet sera le plus sensible, parce que cette planète est celle qui possède la plus grande vitesse. Tisserand avait fait un calcul analogue autrefois en admettant la loi de Weber. Je rappelle que Weber avait cherché à expliquer à la fois les phénomènes électrostatiques et électrodynamiques en supposant que les électrons, dont le nom n'était pas encore inventé, exercent les uns sur les autres des attractions et des répulsions dirigées suivant la droite qui les joint et dépendant non seulement de leur distance, mais des dérivées premières et secondes de ces distances et par conséquent de leur vitesse et de leurs accélérations. Cette loi de Weber, assez différente de celle qui tendent à prévaloir aujourd'hui, n'en présente pas moins avec elle une certaine analogie. Tisserand a prouvé que si l'attraction newtonienne se faisait conformément à la loi de Weber, il en résulterait pour le périhélie de Mercure une variation séculaire de 14 secondes, de même sens que celle qui a été observée et n'a pu être expliquée, mais plus petite, puisque celle-ci est de 38 secondes. Revenons aux hypothèses ABC et étudions d'abord le mouvement d'une planète attirée par un centre fixe. Les hypothèses B et C ne se distinguent plus alors, puisque si le point attirant est fixe, le champ qu'il produit est un champ purement électrostatique, où l'attraction varie en raison inverse du carré des distances, conformément à la loi électrostatique de Coulomb, identique à celle de Newton. L'équation des forces vives subsiste en prenant pour la force vive la définition nouvelle. De même, l'équation des airs est remplacée par une autre équivalente. Le moment de la quantité de mouvement est une constante, mais la quantité de mouvement doit être définie comme on le fait dans la nouvelle dynamique. Le seul effet sensible sera un mouvement séculaire du périhélie. Avec la théorie de Lorentz, on trouvera pour ce mouvement la moitié de ce que donnait la loi de Weber. Avec la théorie d'Abraham, les 2/5. Si l'on suppose maintenant deux corps mobiles gravitant autour de leur centre de gravité commun, les effets sont très peu différents, quoique les calculs soient un peu plus compliqués. Le mouvement du périhélie de Mercure serait donc de 7 secondes dans la théorie de Lorentz et de 5,8 secondes dans celle d'Abraham. L'effet est d'ailleurs proportionnel à n carré a carré, n étant le moyen mouvement de l'astre et a étant le rayon de son orbite. Pour les planètes, en vertu de la loi de Kepler, l'effet varie donc en raison inverse de racine carrée de la puissance 5, et il est donc insensible, sauf pour Mercure. Il est insensible également pour la Lune, bien que n soit grand, parce que a est extrêmement petit. En somme, il est 5 fois plus petit pour Vénus et 600 fois plus petit pour la Lune que pour Mercure. Admettons qu'en ce qui concerne Vénus et la Terre, le mouvement du périhélie pour une même vitesse angulaire de ce mouvement serait beaucoup plus difficile à déceler par les observations astronomiques parce que l'excentricité des orbites est beaucoup plus faible que pour Mercure. En résumé, le seul effet sensible sur les observations astronomiques serait un mouvement du périhélie de Mercure, de même sens que celui qui a été observé, sans être expliqué, mais notablement plus faible. Cela ne peut pas être regardé comme un argument en faveur de la nouvelle dynamique, puisqu'il faudra toujours chercher une autre explication pour la plus grande partie de l'anomalie de Mercure. Mais cela peut encore moins être regardé comme un argument contre elle. La théorie de Lesage. Il convient de rapprocher ces considérations d'une théorie proposée depuis longtemps pour expliquer la gravitation universelle. Supposons que, dans les espaces interplanétaires, circulent dans tous les sens, avec de très grandes vitesses, des corpuscules très ténus. Un corps isolé dans l'espace ne sera pas affecté, en apparence, par les chocs de ces corpuscules, puisque ces chocs se répartissent également dans toutes les directions. Mais si deux corps A et B sont en présence, le corps B jouera le rôle d'écran et interceptera une partie des corpuscules qui, sans lui, auraient frappé A. Alors, les chocs reçus par A dans la direction opposée à celle de B n'auront plus de contrepartie ou ne seront plus qu'imparfaitement compensés et ils pousseront A vers B. Telle est la théorie de Lesage. Et nous allons la discuter en nous plaçant d'abord du point de vue de la mécanique ordinaire. Comment d'abord doivent avoir lieu les chocs prévus par cette théorie? Est-ce d'après les lois des corps parfaitement élastiques ou d'après celles des corps dépourvus d'élasticité ou d'après une loi intermédiaire? Les corpuscules de Lesage ne peuvent se comporter comme des corps parfaitement élastiques. Sans cela, l'effet serait nul parce que les corpuscules interceptés par le corps B seraient remplacés par d'autres qui auraient rebondi sur B, et que le calcul prouve que la compensation serait parfaite. Il faut donc que le choc fasse perdre de l'énergie au corpuscule, et cette énergie devrait se retrouver sous forme de chaleur. Mais quelle serait la quantité de chaleur ainsi produite? Observons que l'attraction passe à travers les corps. Il faut donc nous représenter la Terre, par exemple, non pas comme un écran plein, mais comme formée d'un très grand nombre de molécules sphériques, très petites, qui jouent individuellement le rôle de petits écrans, mais entre lesquels les corpuscules de Lesage peuvent circuler librement. Ainsi, non seulement la Terre n'est pas un écran plein, mais ce n'est pas même une passoire, puisque les vides y tiennent aussi beaucoup plus de place que les pleins. Pour nous en rendre compte, rappelons que Laplace a démontré que l'attraction, en traversant la Terre, est affaiblie tout au plus d'un 10 millionième, et sa démonstration ne laisse rien à désirer. Si, en effet, l'attraction était absorbée par les corps qu'elle traverse, et elle ne serait plus proportionnelle aux masses, elle serait relativement plus faible pour les gros corps que pour les petits, puisqu'elle aurait une plus grosse épaisseur à traverser. L'attraction du Soleil sur la Terre serait donc relativement plus faible que celle du Soleil sur la Lune. Il en résulterait, dans le mouvement de la Lune, une inégalité très sensible. Nous devons donc conclure, si nous adoptons la théorie de Lesage, que la surface totale des molécules sphériques qui composent la Terre est tout au plus la 10 millionième partie de la surface totale de la Terre. Darwin a démontré que la théorie de Lesage ne conduit exactement à la loi de Newton qu'en supposant des corpuscules entièrement dénués d'élasticité. L'attraction exercée par la Terre sur une masse 1, à la distance 1, sera à la fois proportionnelle à la surface totale S des molécules sphériques qui la composent, à la vitesse V des corpuscules, à la racine carrée de la densité ρ du milieu formé par les corpuscules. La chaleur produite sera proportionnelle à S, à la densité ρ et au cube de la vitesse V. Mais il faut tenir compte de la résistance éprouvée par un corps qui se meut dans un pareil milieu. Il ne peut se mouvoir en effet sans aller au-devant de certains chocs, en fuyant au contraire devant ceux qui viennent dans la direction opposée, de sorte que la compensation réalisée à l'état de repos ne peut plus subsister. La résistance calculée est proportionnelle à S, à ρ et à V, or on sait que les corps célestes se meuvent comme s'ils n'éprouvaient aucune résistance. Et la précision des observations nous permet de fixer une limite à la résistance du milieu. Cette résistance variant comme S rho V, tandis que l'attraction varie comme S racine carrée de rho V, nous voyons que le rapport de la résistance au carré de l'attraction est en raison inverse du produit SV. Nous avons donc une limite inférieure du produit SV. Nous avions déjà une limite supérieure de S par l'absorption de l'attraction par les corps qu'elle traverse. Nous avons donc une limite inférieure de la vitesse V qui doit être au moins égale à 24 10 puissance 17 fois celle de la lumière. Nous pouvons en déduire ρ et la quantité de chaleur produite. Cette quantité suffirait pour élever la température de 10 puissance 26 degrés par seconde. La Terre recevrait dans un temps donné 10 puissance 20 fois plus de chaleur que le Soleil n'en émet dans le même temps. Je ne veux pas parler de la chaleur que le Soleil envoie à la Terre, mais de celle qui rayonne dans toutes les directions. Il est évident que la Terre ne résisterait pas longtemps à un pareil régime. On ne serait pas conduit à des résultats moins fantastiques si, contrairement aux vues de Darwin, on douait les corpuscules de Lesage d'une élasticité imparfaite sans être nulle. À la vérité, la force vive de ces corpuscules ne serait pas entièrement convertie en chaleur, mais l'attraction produite serait moindre également, de sorte que ce serait seulement la portion de cette force vive convertie en chaleur qui contribuerait à produire l'attraction, et que cela reviendrait au même. Un emploi judicieux du théorème du Viriel permettrait de s'en rendre compte. On peut transformer la théorie de Lesage. Supprimons les corpuscules et imaginons que l'éther soit parcouru dans tous les sens par des ondes lumineuses venues de tous les points de l'espace. Quand un objet matériel reçoit une onde lumineuse, cette onde exerce sur lui une action mécanique due à la pression Maxwell-Bartholdi, tout comme s'il avait reçu le choc d'un projectile matériel. Les ondes en question pourraient donc jouer le rôle des corpuscules de Lesage. C'est là ce qu'admet, par exemple, M. Thomasina. Les difficultés ne sont pas écartées pour cela. La vitesse de propagation ne peut être que celle de la lumière, et l'on est ainsi conduit pour la résistance du milieu à un chiffre inadmissible. D'ailleurs, si la lumière se réfléchit intégralement, l'effet est nul, tout comme dans l'hypothèse des corpuscules parfaitement élastiques. Pour qu'il y ait attraction, il faut que la lumière soit partiellement absorbée, mais alors il y a production de chaleur. Les calculs ne diffèrent pas essentiellement de ceux qu'on fait dans la théorie de Lesage ordinaire, et le résultat conserve le même caractère fantastique. D'un autre côté, l'attraction n'est pas absorbée par les corps qu'elle traverse, ou elle l'est à peine. Il n'en est pas de même de la lumière que nous connaissons. La lumière qui produirait l'attraction newtonienne devrait être considérablement différente de la lumière ordinaire et être par exemple de très courte longueur d'onde. Sans compter que si nos yeux étaient sensibles à cette lumière, le ciel entier devrait nous paraître beaucoup plus brillant que le soleil, de telle sorte que le soleil nous paraîtrait s'y détacher en noir, sans quoi le soleil nous repousserait au lieu de nous attirer. Pour toutes ces raisons, la lumière qui permettrait d'expliquer l'attraction devrait se rapprocher beaucoup plus des rayons X de Röntgen que de la lumière ordinaire. Et encore, les rayons X ne suffiraient pas. Quelque pénétrants qu'ils nous paraissent, ils ne sauraient passer à travers la Terre tout entière. Il faudra donc imaginer des rayons X' beaucoup plus pénétrants que les rayons X ordinaires. Ensuite, une portion de l'énergie de ces rayons X devrait être détruite, sans quoi il n'y aurait pas d'attraction. Si l'on ne veut pas qu'elle soit transformée en chaleur, ce qui conduirait à une production de chaleur énorme, il faut admettre qu'elle est rayonnée dans tous les sens sous forme de rayons secondaires, que l'on pourra appeler X secondes, et qui devront être beaucoup plus pénétrants encore que les rayons X', sans quoi ils troubleraient à leur tour les phénomènes d'attraction. Telles sont les hypothèses compliquées auxquelles on est conduit quand on veut rendre viable la théorie de Lesage. Mais tout ce que nous venons de dire suppose les lois ordinaires de la mécanique. Les choses iront-elles mieux si nous admettons la nouvelle dynamique Et d'abord, pouvons-nous conserver le principe de relativité? Donnons d'abord à la théorie de Lesage sa forme primitive et supposons l'espace sillonné par des corpuscules matériels. Si ces corpuscules étaient parfaitement élastiques, les lois de leur choc seraient conformes à ce principe de relativité, mais nous savons qu'alors leur effet serait nul. Il faut donc supposer que ces corpuscules ne sont pas élastiques, et alors il est difficile d'imaginer une loi de choc compatible avec le principe de relativité. D'ailleurs, on trouverait encore une production de chaleur considérable et cependant une résistance du milieu très sensible. Si nous supprimons les corpuscules et si nous revenons à l'hypothèse de la pression de Maxwell-Bartholy, les difficultés ne seront pas moindres. C'est ce qu'a tenté Lorentz lui-même dans son mémoire à l'Académie des sciences d'Amsterdam du 25 avril 1900. Considérons un système d'électrons plongé dans un éther, parcouru en tous sens par des ondes lumineuses. L'un de ces électrons, frappé par l'une de ces ondes, va entrer en vibration. Sa vibration va être synchrone de celle de la lumière. Mais il pourrait y avoir une différence de phase si l'électron absorbe une partie de l'énergie incidente. Si en effet il absorbe de l'énergie, c'est que c'est la vibration de l'éther qui entraîne l'électron. L'électron doit donc être en retard sur l'éther. Un électron en mouvement est assimilable à un courant de convection. Donc, tout champ magnétique, en particulier celui qui est dû à la perturbation lumineuse elle-même, doit exercer une action mécanique sur cet électron. Cette action est très faible, de plus, elle change de signe dans le courant de la période. Néanmoins, l'action moyenne n'est pas nulle s'il y a une différence de phase entre les vibrations de l'électron et celles de l'éther. L'action moyenne est proportionnelle à cette différence, par conséquent à l'énergie absorbée par l'électron. Je ne puis ici entrer dans les détails des calculs. Disons seulement que le résultat final est une attraction de deux électrons quelconques, variant en raison inverse du carré des distances et proportionnelle à l'énergie absorbée par les deux électrons. Il ne peut donc y avoir d'attraction sans absorption de lumière et par conséquent sans production de chaleur. Et c'est ce qui a déterminé Lorentz à abandonner cette théorie qui ne diffère pas au fond de celle de Lesage Maxwell-Bartholy. Il aurait été beaucoup plus effrayant encore s'il avait poussé le calcul jusqu'au bout. Il aurait trouvé que la température de la Terre devrait s'accroître de 10 puissance 13 degrés par seconde. Conclusion. Je me suis efforcé de donner en peu de mots une idée aussi complète que possible de ces nouvelles doctrines. J'ai cherché à expliquer comment elles avaient pris naissance, sans quoi le lecteur aurait eu lieu d'être effrayé par leur hardiesse. Les théories nouvelles ne sont pas encore démontrées, il s'en faut de beaucoup. Elles s'appuient seulement sur un ensemble assez sérieux de probabilités pour qu'on n'ait pas le droit de les traiter par le mépris. De nouvelles expériences nous apprendront sans doute ce qu'on en doit définitivement penser. Le nœud de la question est dans l'expérience de Kaufmann et celle qu'on pourra tenter pour la vérifier. Qu'on me permette un vœu pour terminer. Supposons que d'ici quelques années, ces théories subissent de nouvelles épreuves et qu'elles en triomphent. Notre enseignement secondaire courra alors un grand danger. Quelques professeurs voudront sans doute faire une place aux théories nouvelles. Les nouveautés sont si attrayantes et il est si dur de ne pas sembler assez avancé. Au moins, on voudra offrir aux enfants des aperçus, et avant de leur enseigner la mécanique ordinaire, on les avertira qu'elle a fait son temps et qu'elle était bonne tout au plus pour cette vieille ganache de Laplace. Et alors, ils ne prendront pas l'habitude de la mécanique ordinaire. Est-il bon de les avertir qu'elle n'est qu'approchée? Oui, mais plus tard, quand ils s'en seront pénétrés jusqu'aux moelles, quand ils auront pris le pli de ne penser que par elle, quand ils ne risqueront plus de la désapprendre, alors on pourra sans inconvénient leur en montrer les limites. C'est avec la mécanique ordinaire qu'ils doivent vivre. C'est la seule qu'ils auront jamais à appliquer, quels que soient les progrès de l'automobilisme, Nos voitures n'atteindront jamais la vitesse où elle n'est plus vraie. L'autre n'est qu'un luxe. Et l'on ne doit penser au luxe que quand il ne risque plus de nuire au nécessaire.